tel côté figure dans la liste des nouveaux membres de l'Ordre du Canada, la plus haute distinction civile au pays. Impliquée activement en économie sociale et solidaire depuis plus de 35 ans, elle est entrepreneur, une leader en développement des communautés, particulièrement des entreprises collectives. Est-elle côté bonjour? Quel effet ça fait pour vous d'être sur cette liste?
Ben, je vous avoue que ça a été l'élément de surprise au début, mais rapidement, un sentiment d'être honoré et très humblement de dire « aïe, 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 qu'est-ce que dans ma feuille de route a pu marquer autant les gens, mais je m'investis depuis longtemps et ça a été vraiment un honneur. Ça a été vraiment, c'est pas le genre de mot qu'on dit souvent, là, mais je me suis sentie très honorée et privilégiée d'être connue pour un travail qui est porté par plein de gens dans notre francophonie.
Parlez-moi un peu, s'il vous plaît, de votre parcours justement dans cette francophonie.
Donc, je suis impliquée en francophonie depuis l'âge, depuis le secondaire, dans le fond. J'ai été présidente à l'école et notre école, ben, il y avait un groupe de gens qui voulaient la transformer en école bilingue ou anglophone. Donc, ça a été une première lutte identitaire. Et depuis ce temps-là, ben, ça a été d'être impliquée dans des projets collectifs passionnants et passionnés. Et à chaque fois, ça a été de construire quelque chose avec plein de gens. Par exemple, j'ai fait beaucoup de bénévolat pour créer le premier centre d'accès pour femmes à Ottawa, qui n'existe pas aujourd'hui, mais à l'époque, c'était vraiment de rêver de se créer un espace pour que les femmes puissent renforcer leur capacité, avoir un espace de parole. C'était assez avant-gardiste. Et dans ce temps-là, on avait créé, même en 1980, le premier forum provincial « Savoir, c'est pouvoir ». Donc, quand tu vis des moments comme ça, très, très jeune, tu découvres à quel point la force collective est présente. Et ça a continué. J'ai été impliquée dans des projets, des organisations économiques, sociales, culturelles, artistiques. J'étais présidente fondatrice de la Nouvelle Scène. Quel projet de société impliquée dans le Centre Espoir Sophie. Donc, ma trajectoire, ça a été d'être impliquée bénévolement et professionnellement dans plusieurs organisations. Puis, à un moment donné, j'ai pour aller plus travailler dans le milieu de l'événementiel, découvrir le milieu économique. Et je suis revenue dans la communauté pour tisser des liens entre le milieu économique et le milieu social, parce que je trouve qu'on gagne à travailler ensemble et pour soutenir le développement de notre communauté.
Et justement, quand je vous dis les femmes en économie, qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, écoutez, c'était un sujet trop bien gardé pendant des centaines d'années. Les femmes ont toujours été omniprésentes dans l'économie, même à l'époque où est-ce que les femmes ne pouvaient pas appartenir, si je parle du Canada, là, de propriété ou d'entreprise. Puis ça, on parle d'il y a 100 ans. Il y a moins de 100 ans, il n'y avait pas de droit de vote. Ces femmes-là géraient souvent le commerce, géraient les économies de la famille, géraient la famille. Donc, la femme a toujours été au cœur de l'économie. Et depuis au moins une vingtaine d'années, parce que les femmes ont toujours été dans toutes sortes d'entreprises. Depuis une vingtaine d'années, on les voit dans tous les postes et dans tous les types d'entreprises, que ce soit dans les coopératives, les entreprises privées, les grandes corporations, les petits commerces de coin de rue. Donc, les femmes en entrepreneuriat et en économie sont omniprésentes. Elles sont souvent celles qui innovent pour créer de la richesse, pour prendre des décisions critiques. Puis, elles amènent vraiment une façon de voir les choses qui est complémentaire à comment les hommes voient l'économie, mais on agit autrement. Et c'est pour ça que même il y a tellement d'études qui l'ont prouvé dernièrement que plus on a de femmes dans les conseils d'administration des grandes entreprises ou des grandes institutions, tout ça, ben on se donne un contexte de créer des équipes gagnantes pour toujours aller plus loin ensemble. Je ne dis pas qu'un groupe d'hommes ne peut pas aller aussi loin, mais ils ne vont pas aller. Ils vont peut-être aller loin, mais peut-être pas aussi loin, avec des valeurs et des principes et des façons de faire dans rêver le possible, puis aussi dans régler les solutions.
Nous avons déjà un peu discuté de la partie entrepreneuriat, donc vous êtes entrepreneur. Comment l'entrepreneuriat a changé ces dernières années?
Ben écoutez, moi, je suis une entrepreneur, mais qui a choisi d'entreprendre autrement très, très tôt dans sa vie. Donc, je m'inscris dans l'économie sociale et solidaire. Je suis une entrepreneur sociale. J'ai été impliquée dans plusieurs coopératives. Je suis toujours impliquée dans ma caisse populaire. Je fais partie d'une coop agricole. Je fais partie, en tout cas, de plein de projets collectifs où est-ce que je m'investis comme membre. Et cette économie-là, on dit que c'est une économie à visage humain, à échelle humaine. C'est une économie de quartier, c'est une économie qui crée des emplois décents. On ne vise pas à l'enrichissement du boss, mais on cherche vraiment l'enrichissement collectif. Donc, l'entrepreneuriat social et l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment de choisir de, oui, être en affaires, mais pas juste pour faire de l'argent, pour aussi avoir de l'impact dans la communauté. Puis, on le fait toujours avec des valeurs très, très profonde d'engagement dans la communauté, puis d'impact. On va avoir des résultats, mais on va avoir de l'impact. Tu sais, il y a des millions qui ont été investis pour lutter contre la pauvreté, puis il y a le nombre de personnes qui vivent dans la pauvreté est grandissant et non pas, il n'y a pas diminué au Canada et à travers le monde. Ben, les gens qui s'investissent en économie sociale et solidaire proposent des solutions pour diminuer cette pauvreté-là, mais en impliquant les acteurs et les actrices, en impliquant les gens qui sont concernés, qui vivent la pauvreté dans des solutions durables. Donc, c'est ça l'entrepreneuriat dans mon cas. Donc, l'entrepreneuriat aujourd'hui, il est diversifié. En francophonie, il est pluriel. J'espère que de recevoir l'Ordre du Canada en disant « on veut souligner votre travail en économie sociale », que les durs et purs de l'économie privée vont de plus en plus s'éveiller à cette économie-là qui est plurielle, qui inclut l'économie privée, qui inclut l'économie sociale, mais qui inclut aussi l'économie publique, donc tous les pouvoirs de la commune, de la municipalité jusqu'au fédéral. Parce que l'économie sociale, juste dans la région d'Ottawa, il y a à peu près 400 entreprises d'économie sociale du côté de l'Outaouais, puis il y en a plus de 600 juste dans la région d'Ottawa et environnant. Des gens, puis ça, c'est des coops d'habitation, des garderies, des services de proximité, des cafés, des bistrots, des lieux d'incubation comme l'atelier d'innovation sociale, le MIFO, l'Unique FM. Vous faites partie de cette économie-là qui vendait des services et des produits sur le marché, mais vous avez une mission dûment sociale. Puis, c'est encore un secret bien gardé. Tu sais, si on dit, il y en a peut-être 1200 dans la région de la capitale nationale, puis que plusieurs en ont peut-être un dans une entreprise de ce genre-là dans son quartier, mais il la méconnaît. Il va aller acheter des produits, mais il méconnaît que cette entreprise-là s'engage dans sa communauté et fait des efforts pour vraiment créer des conditions de travail décentes. Ben, à quelque part, j'espère que cette Ordre du Canada qui souligne l'économie sociale permettra à tout le monde de s'éveiller sur cette force économique très, très présente dans notre francophonie.
Et quel conseil donneriez-vous, par exemple, à un jeune qui a envie de s'investir dans ce type d'entrepreneuriat, justement?
Ben moi, le conseil, c'est autant pour les jeunes que pour les grands-parents, parce que vous savez, même les gens de 60 ans et plus, là, si elles n'ont pas, ces personnes-là, eu un fonds de pension, tout ça, là, elles vivent dans des situations vulnérables. Donc, ça peut être des grands-parents, ça peut être des jeunes, ça peut être des femmes, ça peut être des personnes nouvellement arrivées au pays. On porte tous des rêves. Dans nos têtes, dans nos cœurs, dans nos tripes, ben, écoutez, moi, ce que je vous dirais dans l'économie sociale et solidaire, c'est de croire fondamentalement dans ses rêves, surtout si ses rêves peuvent répondre à leurs besoins puis aux besoins d'autres personnes dans la communauté, et d'embrasser la possibilité de travailler avec d'autres. Parce qu'à plusieurs, on va plus loin, on réussit mieux et on réussit plus vite. On trouve une variété de solutions à des problèmes qui vont subvenir. Hein, partir en affaires, c'est pas juste le paradis sur Terre. Là, il va avoir plein de défis, mais on est toujours plusieurs à trouver des solutions et plusieurs à agir ensemble. Et vraiment, d'aller de l'avant, de passer à l'action et de rêver. C'est donner à tout le monde de rêver. Quelle que soit notre situation, on va avoir un petit, un moyen, un très grand rêve. Ben, à un moment donné, il faut choisir d'agir et d'entreprendre sa vie et possiblement entreprendre ses affaires, mais avec une mission, avec des valeurs sociales qui nous unissent.
En vous écoutant, on sent vraiment l'énergie que vous avez par rapport à votre mission, votre travail. D'où vient cette énergie?
Ah ben, comme beaucoup de monde, hein, j'ai eu beaucoup de défis dans ma vie. C'est, je pense, le lot de l'humain et de l'humaine, là, d'avoir des hauts et des bas. Mais comme je le mentionnais tout à l'heure, j'ai eu le privilège très tôt dans ma vie de voir, quel que soit le baril ou l'étape où on est dans le baril, dans le fond du baril, dans le milieu du baril, ou il y a toujours des solutions, il y a toujours des possibles. Et je me suis rendu compte que si on est bien entouré ou si on réussit à travailler avec d'autres ou à collaborer avec d'autres, ces possibles-là peuvent se réaliser beaucoup plus vite. Donc, quand tu découvres ça plus jeune, quelle que soit l'épreuve que tu as dans ta vie, tu crois en toi, puis tu crois aussi que c'est possible, seul ou avec d'autres. Et c'est ça qui me motive. Puis j'ai tellement appris des 900 entreprises, coop, organismes avec qui j'ai travaillé. Imagine, aujourd'hui, j'ai le goût de redonner. Bien, depuis des années, je redonne. Je fais du bénévolat, je m'investis, puis je fais du coaching, du mentorat, de l'accompagnement personnalisé. Payer parfois, pas payer parfois, parce que des fois, le rêve est tellement contagieux que tu as le goût d'être là pour donner certains conseils ou des orientations à certaines personnes. Mais c'est ça qui m'anime. Puis je pense qu'à quelque part, quand on a reçu beaucoup de sa communauté, on a le goût de redonner à sa communauté.
Et la communauté francophone pour vous, qu'est-ce que c'est?
Oh là là! Ça fait 25 ans que je dis que la communauté, elle gagne à s'éveiller à la pluralité. Donc, pour moi, elle a toujours été, même très jeune, dans ma famille, on accueillait des gens de diverses cultures, de divers horizons, de divers milieux. Donc, pour moi, la communauté francophone, oui, ce qu'elle a en commun, toutes ces personnes, ce qu'elles ont en commun, c'est le fait français. Le parler bien, le parler autrement, le parler avec tous ses accents, c'est ça que sa richesse, mais c'est aussi de tous ses horizons, de tous ses âges, qu'on ait 80 ans, qu'on ait 2 ans, qu'on vient du milieu rural ou milieu urbain, qu'on vient de la RDC ou de Paris ou de North Bay, cette francophonie-là, elle a quelque chose en commun, elle vibre par une langue, par une culture qui l'unit, et elle est tellement riche de tous ses horizons et de toutes ses aspirations qui viennent de partout. On est super chanceux d'avoir cette francophonie et de la vivre pleinement.
Ma dernière question était, quels sont vos projets pour le futur?
Mes projets pour le présent et pour le futur, c'est tant que j'ai la santé, c'est de continuer à avoir le privilège d'accompagner des gens qui ont toujours des rêves collectifs et qui ont le goût d'accomplir des choses dans leur communauté. J'ai lancé il y a quelques années Institut Social, qui est une plateforme de partage de savoir-faire, où est-ce que les gens ont accès gratuitement à du contenu. Il y a eu du contenu produit par moi et par d'autres, mais là, j'aimerais vraiment trouver le temps pour créer des capsules que je pourrais mettre, podcasts, capsules vidéo, ateliers, formations, et rendre ça accessible à tout le monde tout le temps. Et mettre en lumière. Moi, j'ai eu le privilège d'être invitée sur tous les continents pour raconter l'histoire franco-ontarienne, notre pratique franco-ontarienne. Imagine, tu te retrouves en Écosse en fait, parlant en anglais de ce qui s'est passé en milieu rural de l'Est de l'Ontario. Puis là, tu racontes ça, puis là, les gens, ils capotent, puis ils trippent. Puis là, ils t'écoutent, puis toi, tu reviens là parce que tu as passé 3, 4 jours, 5 jours à écouter aussi des histoires, des pratiques, de la façon qu'ils ont surmonté des défis au niveau du logement, au niveau des services de garde. Puis je reviens avec ça. Donc, j'espère vraiment, dans la suite des choses, avoir le temps d'écrire, mais de vulgariser par l'écriture et de la démocratiser, donc la rendre accessible à un plus grand nombre de gens, puis de raconter toutes ces pratiques-là que j'ai pu découvrir un peu partout en Afrique, en Europe de l'Est, en Amérique latine, et de partager ces ressources-là. Je le fais depuis toujours. J'ai souvent proposé des sujets ou des ateliers trop tôt, avant le temps, mais les gens... À un moment donné, ils ont pris la graine, ça semé, tu sais, j'ai fait la semence, puis là, ça a poussé. Puis de plus en plus, on parle d'innovation sociale, mais j'en parlais il y a 15 ans. Mécénès a créé une plateforme de sociofinancement. Maintenant, les organisations se servent du sociofinancement. À l'époque, j'arrachais des dents, hein, je disais que c'était un outil. Donc, pour la suite, j'espère vraiment continuer à partager des savoir-faire, pas juste de moi, mais de d'autres, mais d'éveiller, de tisser des liens avec d'autres pratiques qui pourraient continuer à nous inspirer en Ontario français.
C'était une entrevue faite par Marie Hillès dans le cadre du programme IGL.